A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
J'ai complètement changé ma façon de voir l'entreprise parce que j'ai eu besoin de m'adapter à mon calendrier aussi. Et c'est tout con, tu vois, mais la crèche, elle ferme à 18h45, bah oui, bah faut bien que j'aille chercher mes enfants, quoi. Et donc, ça m'a aussi permis d'être un peu plus flexible vis-à-vis de la vie de chacun, alors qu'avant, dans ma boîte précédente, j'étais persuadée que c'était le salarié qui devait s'adapter à l'entreprise. Maintenant, j'ai un peu changé d'avis. Je pense que c'est l'entreprise qui doit s'adapter et le salarié qui, du coup, n'en sera que plus efficace et bienveillant vis-à-vis de sa boîte, tu vois. Mais franchement, j'aurais pas dit la même chose il y a 3 ans.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est donc avec Audrey Destan. Salut Audrey.
Salut, merci beaucoup, je suis contente d'être là.
Avec grand plaisir. Audrey, tu es la fondatrice et la patronne de cette boîte qui s'appelle Poppy.
Poppy, c'est ça.
Des trucs pour se nettoyer d'une manière générale, c'est
ouais,
ça,
pour
fait.
S'essuyer même.
Pour s'essuyer.
Historiquement, c'est une marque de papier d'hygiène.
Ouais.
Donc on vend des papiers toilettes, mouchoirs, essuie-tout. Et aujourd'hui, on dit qu'on est plutôt une marque de produits d'hygiène pour toute la famille. Parce qu'on vend aussi des sacs poubelles pour les chiens et les chats, par exemple, pour les couches de bébé. On vend aussi des cosmétiques pour le petit coin, du genre un petit gel nettoyant pour les toilettes, tu vois, ce genre de choses. Donc, on essaie d'aller plutôt vers une marque de produits d'hygiène au sens large et de sortir un peu du pur papier, quoi. Voilà.
Ah, ok. Parce qu'à la base, c'était vraiment... En fait, en vrai, t'avais monté une boîte de papier.
Boîte de PQ, même.
De,
ouais, c'était
de PQ,
une,
oui.
Vraiment une boîte de PQ, puisqu'on est... Enfin, moi, je suis restée... et toute seule et à vendre du papier toilette pendant un an, ouais, quasiment un an, tu vois. Donc, marque de monoproduit, pur monoproduit un an. Ouais.
Et donc, Poppy, ça vient de Popo Pipi parce qu'en plus, c'est ça. T'as contracté.
Ouais, c'est ça, exactement.
Génie, franchement.
Ouais, non, je m'étais pas creusée à ce moment-là. En gros, quand j'ai créé cette marque de papier toilette qui était au début presque une blague, tu vois, un hobby en tout cas. Je demandais aux gens, mais comment vous nommez le fait d'aller aux toilettes ? Et le popo pipi, c'était le plus mignon, le plus familial, justement. Donc, j'ai réuni les deux et ça a fait Poppy. Voilà.
Bravo. T'as lancé cette boîte et tu l'as crowdfundée, c'est ça, à la base ? T'as lancé un Ulule ?
J'ai lancé un Ulule, c'est ça, financement participatif. Mais Ulule, c'est...
Ça vient après, c'est ça ?
Alors, moi, j'ai créé la boîte en avril 2019. J'ai tout préparé, si j'ose dire, jusqu'à septembre 2019. Et en septembre 2019, j'ai lancé sur Ulule. Mais Ulule, c'est bien de la vente de produits. Hein. C'est pas, tu sais, de la prise d'action comme on peut voir sur d'autres sites.
C'est de la pré-vente.
C'est de la pré-vente. Voilà. Donc, c'est du chiffre d'affaires. Pas de partage, on va dire, de l'equity à ce moment-là. Quoi. Voilà.
C'est très important parce que aujourd'hui, t'es la seule associée.
Alors, je suis la seule associée opérationnelle, ouais. Mais j'ai ouvert mon capital quand même à des business angels, okay. Donc des investisseurs, mais qui sont quasi que des entrepreneurs qui ont réussi et qui ont plein de choses surtout à m'apprendre.
T'as pas un fond quoi ? T'as pas un fond d'investissement qui est venu ?
Non, j'ai pas un fond d'investissement au sens financier. Par contre, j'ai un de mes business angels qui s'appelle Thibault Lougnon, qui est le fondateur de la marque Cézanne, les fringues.
Oui.
Et lui, il a un fond d'investissement, mais il y a que lui dedans. Donc on peut dire que c'est okay. Un fond, mais c'est plutôt Thibault et son fond. Quoi, voilà.
Thibault et son fond.
C'est ça.
Si tu nous écoutes, Thibault et son fond.
Une BD, c'est ça.
On va reparler un petit peu de toute cette aventure et de comment t'en es venu, etc. Mais avant ça, j'aimerais bien savoir un petit peu à quoi tu ressemblais quand t'avais 7-8 ans.
Quand j'avais 7-8 ans, j'étais une petite fille très... je pense que de 7-8 ans à mes 18 ans, je pense que j'avais à peu près le même... peut-être pas la même tronche, parce que je suis devenue blonde platine à 14 ans. Mais,
ça arrive.
Mais j'étais la même personne. Je pense une petite fille très, très scolaire. J'ai toujours été très scolaire, mais je suis toujours très scolaire d'ailleurs. Très bonne élève, mais aimant quand même beaucoup sortir. J'avais beaucoup d'amis, donc j'adorais l'école et j'adorais ce qu'il y avait en dehors de l'école. Voilà. Okay. Mais c'est toujours le cas un peu aujourd'hui, tu vois. J'ai pas de sujet dans ma vie de plainte ou de négativité extrême, tu vois. Ben, je pense que j'étais la même petite fille, mais plus petite. Et puis, j'avais pas de lunettes et j'avais pas de cheveux blancs, voilà. Mais sinon, je pense que je me ressemble pas mal encore, ouais.
Pourquoi tu disais que t'avais pas de sujet de négativité? Ça veut dire quoi?
J'essayais de réfléchir, tu vois, est-ce qu'à 7-8 ans, t'as des peurs, t'as des choses comme ça qui font qu'enfant, beaucoup de choses t'inquiètent. Et à part des sujets, tu vois, genre hyper vénères que j'ai toujours pas réussi finalement à résoudre, genre la mort, bah finalement, je me suis toujours contentée de ce que j'avais, tu vois, en fonction de mes âges. Et d'ailleurs, j'ai eu des choses, j'ai l'impression, très différentes en fonction de mes âges, que ce soit avec mes parents, mes amis et tout. Mais je m'en suis toujours contentée avec plaisir, tu vois. Voilà. Donc, je visualise une petite fille comme ça, en tout cas à l'époque,
ouais.
Avec ce côté très scolaire dont je parlais au début.
Ouais, bonne élève. C'est ouf le nombre de nanas que j'ai dans Histoire de succès qui ont tout le profil bonne élève, quoi. C'est un vrai truc.
Et parfois, c'est limitant. Hein. C'est-à-dire que on a beaucoup besoin aussi qu'on nous dise c'est bien, tu vois. Ça, c'est caractéristique et j'assume complètement ça. Mais il faut le savoir, effectivement, quand on nous connaît bien, on sait comment nous prendre, si j'ose dire, sur plein de sujets. Parce que c'est important pour la bonne élève ou le bon élève qu'on dise c'est bien ce que t'as fait, tu vois, même des petits trucs.
Et ça, t'as la sensation aussi que ça empêche un peu de sortir du cadre, de ce fait? En tout cas pour toi?
Je pense pas. Enfin, okay. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça m'a limitée. Par contre, parfois, ça peut me faire faire des trucs un peu débiles, du genre... Tu vois, dans la vie quotidienne, par exemple, je vais dire ce que je fais pour moi me convaincre que j'ai fait un truc bien.
Ah oui.
Ou voilà, du genre, je vis dans la vaisselle, ce que je fais jamais. En l'occurrence, je vais me sentir obligée de dire « Ah, j'ai vidé le truc, tu vois, pour qu'on me dise c'est bien », alors qu'en soi, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais ça, c'est le côté bon élève, tu vois, cocher un peu les cases, quoi.
Ok.
Voilà. Mais non, moi, je trouve pas que ça m'a limité. Au contraire, j'ai eu envie de plaire à des gens, tu vois, d'aller au-delà de ce que j'étais capable de faire. Et d'ailleurs, c'est vrai que les gens dont je suis très proche... ont tendance à me pousser aussi comme ça. Tu vois, par exemple, quand j'ai lancé Poppy, moi, mon mec est entrepreneur aussi, et lui, il est assez dur sur... Enfin, c'est à la fois un support et à la fois il me pousse parfois à l'extrême. Et je me souviens qu'il m'avait dit au début de Poppy, je te parle pas tant que t'as pas vendu ton premier pack, quoi. Tu vois. Et alors qu'autour okay. de moi... Non, mais j'exagère un petit peu, tu vois, mais autour de moi, les gens me disent « Ah, c'est génial, c'est trop rigolo et tout. » Et lui, il me disait « Non, mais attends, pour l'instant, c'est que de la com'. »
Ouais.
Tu vois, et en fait, étape par étape, ça fait vachement avancer, en fait. Mais bon, il faut quand même aussi supporter le fait qu'on puisse challenger très régulièrement, quoi.
Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, ça t'a fait du bien, toi, d'avoir ton mec en face de toi qui te disait « Moi, je te cause pas avant ». Ça te remettait un peu dans cette dynamique de bon élève, justement?
Plutôt, ça m'obligeait à pas me contenter du okay. « C'est rigolo, Poppy, c'est sympa », tu vois. Parce que tu construis pas une boîte rentable, une boîte qui cartonne parce que c'est sympa, en fait.
Oui.
C'est vrai la première année, mais après, t'as des salariés, t'as des usines aussi à faire tourner. Enfin, mine de rien, ça suffit pas, quoi.
Oui, donc, j'imagine.
Voilà.
Pourquoi tu disais tout à l'heure que jusque de tes 8 à 18 ans, t'as été comme ça? Il s'est passé quoi à 18 ans?
C'est vrai d'ailleurs, pourquoi je me suis arrêtée à 18 ans? J'ai dû me dire, tiens, j'étais majeure. Je pense que c'est parce que j'ai quitté la maison pour aller en prépa.
Okay.
Et puis moi, je suis bordelaise, donc j'ai quitté Bordeaux pour aller à Paris. Et donc forcément, tu vois, inconsciemment, j'ai dû marquer cette coupure-là à 18 okay. ans. Mais oui, c'est vrai, ça doit être ça. Okay. J'ai quitté mes parents, quoi. Voilà. Donc je suis extrêmement proche et je pense que je suis même un peu folle parce qu'on a failli se mettre en coloc avec mes parents il y a un an.
Comment ça?
Tu vois un peu le délire? Bah, en fait, on s'est dit, on va vivre avec mes parents qui sont bordelais. Ils vont venir une semaine par mois. Et on partagera un appart avec un peu tout le monde, tu vois, en mode famille communautaire. Un, pour avoir un plus grand appart à Paris, parce que c'est quand même assez cher de se loger oui. à Paris. Et deuxièmement, parce que moi, j'aime bien le fait que mes enfants soient proches de leurs grands-parents aussi, tu vois, et puis c'était qu'une semaine par mois. Mais je sais que c'est pas courant, et quand je le dis, les gens me trouvent un peu trop proche de quoi.
Mais...
en tout cas, c'est original.
Ouais, mais t'as le droit d'être proche de tes parents tant que tu te sens libre.
Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est particulier quand même, tu vois, on a une relation très, très fusionnelle, et pourtant, on vit pas dans la même ville maintenant, et on n'a pas pris cet appart finalement. Mmh.
Je cite souvent dans Histoire de Daron un bouquin qui s'appelle Vos parents ne sont plus vos parents. Et ouais. En gros, qui c'est fait par deux psys qui, mm-hmm. qui racontent en fait comment on devient les ex-enfants de nos ex-parents quand on est à l'âge adulte pour pouvoir recréer une nouvelle relation finalement.
Ouais,
tu vois, qui
n'est
plus une relation de dépendance où enfin, en fait tes parents n'ont plus besoin de toi aujourd'hui, j'imagine.
Et non, mais.
Tu n'as plus besoin de tes parents.
C'est plutôt ça, parce que eux, justement, il y a un renversement finalement de la ouais. situation où. Tu t'occupes beaucoup plus de tes parents. Et moi, c'est ça aussi ce qui s'est passé, c'est que mon père a été très malade. Et en fait, à ce moment-là, tu comprends que la roue tourne et que finalement, voilà, tes parents, ça va devenir un jour, malheureusement, entre guillemets, des enfants dont il faudra s'occuper aussi. Donc, moi, je me sens très responsable de mes parents à ce niveau-là, tu vois.
Et il y a une forme de devoir. Il y a une forme de devoir vis-à-vis d'eux.
Il y a clairement un devoir, oui.
Okay.
Pour moi, c'est une évidence. Ouais, vraiment devoir... Et je pense que tous, même si c'est au global, on a un devoir vis-à-vis des gens âgés. Ça, c'est j'en suis convaincue.
Ah oui, oui, ça, oui. Mais enfin, pour moi, il y a toujours ce truc de devoir et de le subir, tu vois. Pour moi, c'est pas vraiment la même chose.
Ouais. Moi, pour moi, c'est vraiment un devoir.
Ok.
Mais bon, de fait, le devoir, tu le subis quand même un petit peu parfois, surtout dans des situations extrêmes que moi, j'ai pas connues. Hein, mais bon, il y en a certainement. Et ouais, j'aime bien la notion de devoir aussi, mais c'est mon côté bon élève, tu vois.
Oui.
Justement, le devoir, tu le subis moins quand t'as ce côté scolaire, quoi.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je trouve que, tu vois, moi, par exemple, mes grands-parents sont venus vivre chez mes parents quand ils, quand ils étaient malades, tu vois. Et moi, aujourd'hui, je me vois pas du tout réitérer ce truc-là, tu vois. Et je trouve que c'est intéressant de réfléchir à comment la cellule familiale fonctionne, là où avant, effectivement, c'était... une évidence pour les parents d'aller vivre chez leurs enfants une fois qu'ils seraient vieux, etc. Enfin, c'est très intéressant de voir à quel point ça a bougé, j'ai l'impression, en l'espace de quelques décennies, en fait, finalement.
Ah ouais, carrément. Et puis, toutes les réflexions, c'est peut-être pas là le sujet du podcast, mais tu vois, toutes les réflexions autour de la fin de vie aussi, en fait. Qu'est-ce que tu fais de gens qui sont plus utiles, tu vois? Et
oui.
En fait, la personne âgée, aujourd'hui, on considère beaucoup qu'elle est plus utile, quoi.
Alors moi, je suis pour ma propre euthanasie, en tout cas, tu vois, vraiment, à partir du moment où je sens que ça ne va pas être possible, juste couper le tuyau, s'il vous plaît.
Ouais, non, mais après, que chacun décide pour soi-même. La question, c'est effectivement quand tu ne peux plus décider vraiment.
Oui.
Mais bon, c'est peut-être un... Effectivement, mais c'est lié quand même à la famille et à la vision globale de la communauté.
Ouais.
Quoi.
J'avais interviewé un mec dans Histoire de mec qui avait raconté qu'il avait lui-même programmé. Il a 70 ans, tu vois.
Ouais.
Il avait raconté qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme.
Ouais.
Il avait programmé son euthanasie pour 80 ans, en fait, où il dit : mais moi, je ne veux pas dépérir, en fait. Pour moi, c'est bon. 80 ans, j'aurais bien vécu, tu vois. Donc, c'est dans 10 piges. Je lui ai dit : écoute, rendez-vous dans 8, comme ça, on fera un peu le point sur comment ça se passe. Mais je trouve que, effectivement, le sujet de la fin de vie est vraiment fascinant. Donc, t'as études brillantes, c'est ça ? T'as fait l'ESSEC, je me trompe pas.
En tout cas, académiquement, pardon, on peut dire que c'est. Faut que tu fasses. Ouais, généraliste,
t'as fait prépa,
commerce, quoi. J'ai fait une prépa. Ouais. Et ensuite, j'ai fait l'ESSEC, école de commerce, quoi. Mais moi, historiquement, mes parents sont profs de philo tous les deux.
OK.
Donc, moi, je voulais faire de la philo.
C'est raté,
je te le fais pas dire. Et mes parents, en fait, voulaient pas parce qu'ils m'ont dit : mais tu vas faire comme nous, tu vas être prof. Moi, ça me dérangeait pas, mais ils me l'ont déconseillé pour plein de raisons. Et donc, j'ai pas fait de philo. Et je me suis dit : j'aime encore les maths, j'aime tout faire, donc je fais une prépa, tu vois, très généraliste. Après, école très généraliste, enfin, toujours dans ce truc de me dire : je me laisse quand même des possibilités. Et puis en prépa, je faisais beaucoup de philo aussi quand même. Donc, ouais. Voilà. Mais j'aurais aimé, peut-être dû faire plutôt des études plus littéraires, tu vois. Voilà.
T'as l'impression que ce point de vue-là, ou en tout cas cette appétence pour la philosophie, ça devient aussi, ça t'a créé aussi cet esprit de responsabilité par rapport à l'environnement, par rapport au monde qui nous entoure.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Je sais pas, parce okay. que je pense que t'as des philosophes très différents qui sont plus ou moins adeptes oui. de la nature et de l'environnement, donc je suis pas sûre que ce soit ça, mais...
Il y a au moins un côté introspectif.
Ouais, c'est vrai, et puis aussi, on parlait de l'écoute au début, savoir écouter les autres, mais savoir lire les autres, c'est vachement intéressant aussi, parce que t'as plus le temps de te poser, justement, t'es moins dans la réaction, tu vois. Tu peux relire, tu peux revenir en arrière, etc., donc je trouve que c'est ce qu'apporte la lecture quand même. Et donc, c'est pas vraiment tourné vers soi, je dirais que c'est plutôt tourné vers ouais, l'apprentissage, l'étude de ce qu'ont pu faire d'autres gens sur des sujets très différents. Quoi.
Ok. Voilà. Comment se passent tes études? Ça se passe bien, j'imagine? Elle est sec?
Alors, en prépa, je me prends une énorme baffe parce que moi, je venais de Bordeaux, j'avais des très bonnes notes. J'ai réalisé qu'en fait, à Paris, rien à voir, quoi. J'avais pas du tout fait ce qu'avaient fait les autres. Donc, franchement, je suis devenue, entre guillemets, mauvaise élève pendant quelques mois, tu vois.
Et ça après, a été dur de t'adapter à l'époque parce que c'est...
Ouais, et puis en plus, j'étais vraiment un gros bébé, donc j'avais l'alarme facile, tu vois. Donc je prenais les choses vachement à cœur. C'est vrai, j'ai réalisé que je ne les prends plus du tout. J'ai dû grandir entre-temps, j'espère. Mais c'est vrai qu'à l'époque, vraiment, ça me traumatisait quoi, de perdre cette espèce de statut, tu vois, de la meilleure de la classe. Et donc ma prépa, finalement, se passe bien, surtout super bon pote. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré mes 2 années de prépa. Et après, l'école, vachement bien parce que sympa, mais j'ai pas appris ce que je fais aujourd'hui. J'ai pas appris mon métier d'entrepreneur. Ça, j'ai plutôt appris en stage, je dirais, tu vois, le fait de travailler, de sortir justement de ce cadre scolaire. Et c'est là où j'ai réalisé, alors j'étais persuadée que j'avais adoré l'école, que finalement, le travail me convenait beaucoup plus que les études qui me stressaient, alors que j'ai jamais été stressée par mon travail, tu vois.
Les Donc, études te stressaient?
J'ai réalisé ça en travaillant. J'ai réalisé okay. qu'en fait, j'avais pas du tout ce stress de la bonne note ou du devoir, du rendu écrit. Et vraiment, mon travail, j'ai réalisé que j'aimais travailler en entreprise. Donc finalement, j'aurais pu le réaliser un peu plus tôt, tu me diras, mais j'ai pas vraiment eu l'opportunité non plus de le tester avant. Et c'est ce que j'ai apprécié dans mon parcours à l'ESSEC, c'est vraiment le côté, t'es obligé de faire 24 mois de stage, donc tu vois, c'est quand même beaucoup. Et donc, ça te force à voir des choses, des métiers. Donc moi, j'avais aucune idée. Enfin, franchement, j'avais pas rencontré un chef d'entreprise avant mes 20 ans, je pense vraiment. Hein. Parce que dans le milieu de mes parents, c'était que des profs ou des médecins, ouais. tu vois. Donc, je savais même pas ce que c'était, en fait.
C'est ouf parce que tu viens quand même d'un milieu privilégié, intellectuellement, etc. Mais c'est sûr que c'est pas du tout
ça a rien à voir.
Les professions libérales et les profs, intellectuellement, ça vient, quoi, tu vois, j'imagine qu'il y a du répondant, c'est pas du tout le même milieu, quoi.
Pas du tout, et c'est pas la même relation à l'argent, tu vois, c'est pas la même relation même au travail, quoi, c'est très très différent.
Et donc, tu sais que l'argent, c'est un sujet qui m'intéresse, puisque j'ai un podcast qui s'appelle Histoire d'argent, où je fais parler les gens de rapport à l'argent.
Avec plaisir, parce que j'aime en parler aussi pas mal.
C'est hyper intéressant, t'as la sensation de t'être confronté à tes parents par rapport à ça, et par rapport au fait que t'es rentré dans ce milieu-là, que t'as eu... Enfin, ça vient, j'imagine, créer des frictions entre vous.
Alors, des frictions, non, parce que okay. je pense que mes parents ont toujours eu confiance, même s'ils ne le disent pas, mais je pense qu'ils ont toujours eu confiance dans nos choix avec ma sœur. Par contre, de l'inquiétude, c'est certain, notamment parce que moi, ma mère, ses parents sont immigrés espagnols, enfin mon grand-père était maçon, ma grand-mère travaillait pas, ça parlait pas français, ouais. donc tu vois, ma mère, c'est une des premières boursières à avoir fait Normale Sup, tu vois, donc okay. elle a vraiment, enfin je pense qu'elle vient de loin, donc j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle a fait, et je pense que mes parents, quand je leur ai dit que j'allais lancer une boîte de PQ alors que j'avais quand même un métier qui était certes dans une start-up mais dans une boîte qui tournait, je pense qu'ils se sont dit, mais imaginons qu'elle perde tout, quoi. Je pense qu'ils se sont vraiment ouais. dit ça. Après, je le comprends parfaitement et c'est toujours le cas. Tu vois, une start-up comme Poppy, on est vraiment dans la phase up, mais on crame aussi du cash, donc c'est très risqué. Et oui. Moi, je le dis toujours à mes salariés, c'est... Le risque est une partie inhérente et c'est ce qui nous fait vibrer. Mais je ne pense pas que ça fait vibrer des parents, tu vois, de savoir ses enfants à risque. Mais voilà, c'est pas vraiment de la friction, c'est plutôt de l'inquiétude, je dirais. Mais
j'imagine que si demain tes enfants décident de lancer une boîte, tu n'auras pas forcément la même appréhension parce que tu seras passé par là. Pour moi, il y a ce truc-là aussi. C'est, je vois à quel point certains, le parcours de prof en fait, t'amène dans une forme de sécurité par rapport de l'emploi qui est...
Ah oui,
qui
ça, c'est
qui est dingue, quoi. Mais qui aussi, de ce fait, peuvent peut-être déformer la réalité de ce que c'est qu'un parcours entrepreneurial, quoi. Parce que c'est là, vrai. En vrai, t'es en train d'apprendre plein de choses.
Ah, mais j'apprends un milliard de trucs. Oui. Mais par contre, je pense que je serais aussi un petit peu inquiète de me dire... parce que je sais tout ce qu'ils vont se prendre aussi, tu vois.
Oui.
Et ça, je trouve que c'est très important. On a beaucoup sur LinkedIn, tu vois, le trip entrepreneurial de... la fame et tout. Enfin, nous, on a fait, franchement, on coche toutes les cases. Tu vois, on a fait qui veut être mon associé,
oui.
On a fait les 100 startups pour investir. Enfin, franchement, je suis un cliché de moi-même, tu vois, donc pas de problème. Mais je dis toujours, enfin, c'est, faut faire hyper gaffe parce que je te donne un exemple tout simple. Moi, j'ai pas eu de congé mat. Bon, bah, c'est sûr que quand tu vois un LinkedIn d'une femme entrepreneur maman, tu te dis, ouais, ça a l'air trop cool. Ouais, enfin, c'est quand même pas facile, tu vois.
T'as décidé de
carrément
de pas t'octroyer de congé mat.
Mais en même temps, tu vois, t'es seule à gérer une boîte, oui, de 15 personnes. Est-ce que t'as le choix, en fait? C'est une vraie question.
Vraie question.
Je ne sais pas. Je suis pas sûre. Mais tu vois, dans mon bureau, il y a un cosy, par exemple. Je sais pas si t'as vu quand t'es passé. Mais
j'allais t'en parler.
Donc j'essaie d'optimiser le temps et l'espace. Mais voilà. Et puis sinon, tu peux pas acheter un appart. Enfin, les banques, voilà, surtout en ce moment, les entrepreneurs, oui, même. Si on a des moyens, c'est comme la bête noire des banques, tu vois. Donc, il y a beaucoup d'inconvénients et j'espère qu'ils feront les bons choix, mais je les aimerais quoi qu'il arrive. Hein. Contrôleur RATP, sécurité de l'emploi, oui, prof, entrepreneur.
Bien sûr. L'important, c'est de s'épanouir.
Exactement. Mais ça, j'en suis vraiment convaincue. Hein. Ouais. J'ai vraiment aucun... pour moi, j'ai jamais vu de sous-métier. Enfin, ça m'a jamais... je sais d'où je viens. Enfin, tu vois, ça m'a jamais complexé ni de près ni de loin, quoi.
Ok. Donc ouais, tu disais parcours ESSEC un peu pas ennuyant, mais j'imagine stressant pour toi, c'est ça?
Non, l'ESSEC, j'étais moins stressée pour tout avouer. J'ai beaucoup, okay, fait la fête en fait à l'ESSEC,
oui.
Mais c'est juste que j'ai pas beaucoup appris de choses oui, théoriques, tu vois.
Oui.
Tu sors de prépa, je veux dire, moi j'avais un prof en plus qui était spécialisé. Enfin, c'était vraiment. Je pense que c'est le numéro un d'Heidegger en France, donc tu vois, hyper niveau intellectuel quand même assez poussé. Et là, bam, je me retrouve en école de commerce où, en fait, j'avais des cours de compta. Mais c'est vachement intéressant. Franchement, je suis trop contente d'avoir eu ces cours. Mais sur le moment, tu tombes un peu de haut quand même, tu,
ouais,
vois. Et donc, voilà, c'était plutôt ça d'un point de vue théorique. Après, à l'ESSEC, j'ai appris un milliard de trucs via plutôt mes stages, via les gens que j'ai rencontrés, via certains cours d'entrepreneuriat, de marketing. Mais c'est vrai que les cours en eux-mêmes, c'était beaucoup moins intellectuellement stimulant que la prépa, quoi.
Les écoles de commerce, ça amène finalement un network, enfin un réseau. Network, je me déteste. Pourquoi j'ai pas réussi à l'avoir en premier? T'amènes un réseau, en fait, finalement.
Franchement, je trouve.
Ouais.
Ouais, vraiment. Et puis une confiance dans... Parfois, j'ai l'impression, mais c'est vrai, dans, pas que l'ESSEC, hein, dans plein d'autres milieux, mais tu rends service et on te rend service juste parce que... Et c'est terrible, parce qu'en soi, c'est l'entre-soi, tu, oui, vois. C'est... Mais quand t'en fais partie, ça va. Par contre, je comprends qu'on déteste cet entre-soi quand on n'en fait pas partie, tu vois. Et ça, je trouve ça... légitime, et c'est pour ça qu'il faut le combattre aussi. C'est parce que si t'es pas dedans, bah, c'est affreux, en fait.
Tu fais en sorte, toi, aujourd'hui, de recruter d'autres gens qui viennent de l'ESSEC, c'est ça?
Parce non.
Que pour moi...
Alors, justement,
ah
j'ai,
ouais,
dans ma première boîte, parce que j'étais associée dans une autre boîte avant,
ouais,
je recrutais que des profils comme moi, enfin, que j'adore par ailleurs, donc je veux pas non plus cracher dessus, ce serait un petit peu fort. Mais en tout cas, vraiment que des profils grande école. Et aujourd'hui, J'ai, tu vois, dans mes salariés que j'ai associés, j'ai un ingé, j'ai une Margot qui a fait un truc de langue, enfin rien à voir, tu vois. Florine qui est une ancienne esthéticienne. Bon, après, Joseph est un peu plus classique dans la formation, mais je m'entoure vraiment de gens très différents.
Ouais.
Et
c'est important pour toi?
Ouais, c'est important, mais je le recherche plus maintenant absolument. Tu vois, je pense qu'il faut savoir aussi s'entourer de gens qui nous ressemblent, enfin... Chercher la différence pour la différence, c'est dommage aussi, oui, parce que tu passes à côté de gens très bien qui en fait, sont très bons. Juste, on n'est pas obligé d'être original pour être bon. Faut pas tomber dans l'extrême inverse, tu vois. Voilà.
Je serais d'accord. Quand tu sors de l'ESSEC, tu rentres dans cette boîte, c'est ça, qui est une boîte de cotation, de notation de start-up,
ouais.
C'est ça?
Ouais, on peut dire cotation aussi, sauf que en fait c'est du non coté, mais c'est de la notation de start-up pour des grands groupes ou des investisseurs. Et en sortant de l'ESSEC, en gros, j'avais envie de monter ma boîte, mais franchement, j'avais pas de réseau, pas assez, je trouvais, pas de compétences, pas d'argent. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Et en fait, m'associer avec des gens qui avaient déjà créé une boîte, c'était le bon plan. Ce que j'avais.
D'où te venait cette envie de monter une boîte?
Bonne question. Je sais pas. J'ai fait plusieurs stages en lien avec l'investissement ou les startups. Et je me trouvais. Pourtant, j'avais adoré toutes les équipes avec qui j'avais bossé. Le fait d'avoir un boss, j'ai toujours adoré mes boss. Mais ça me paraissait pas possible d'en avoir un tous les jours, tu vois. Franchement, c'était. Je sais pas, ça me paraissait trop dur, quoi. Et c'est bizarre, hein, c'est contradictoire avec le fait d'être bon élève, tu vois, un petit peu, je trouve.
T'avais besoin de prendre toi-même tes décisions.
Ouais, sans doute, mais okay. Je trouvais ça vraiment absurde, tu vois, vraiment absurde.
Ouais, parce que t'as un problème de rapport à l'autorité ou...
Un petit peu quand même.
Ok.
Enfin,
parce que tu peux être bon élève en envoyant bouler l'autorité, hein, si tu peux faire les deux en même temps.
Ouais, hein. Carrément. Mais en fait, j'ai jamais eu de problème avec mes parents, parce que mes parents m'ont jamais rien refusé. Mais en soi, je faisais vraiment ce que je voulais. Ouais, vraiment tout ce que je voulais. Heureusement que j'étais pas complètement délurée, parce qu'effectivement, sinon, je sais pas comment j'aurais fini, mais j'ai jamais eu vraiment de contraintes, tu vois. J'ai eu très, très peu de contraintes. Et ce qui fait que je la supporte pas, tu vois. Mais même aujourd'hui, hein, j'ai du mal avec la contrainte. Donc.
Avec tes investisseurs, par exemple, j'imagine à qui tu dois rendre des comptes, c'est des.
C'est pour ça que j'ai choisi que des gens qui ont été entrepreneurs et qui, je pense, sont comme moi aussi, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire que ils fonctionnent exactement de la même manière par rapport au devoir dont on parlait tout à l'heure et la contrainte qui sont deux choses très différentes en fait.
Mmh. OK.
Voilà.
Donc tu rentres dans cette boîte, c'est ça ?
Je rentre dans cette boîte, et je m'associe avec
Tu t'associes directement.
Alors, j'ai des BSPCE donc en gros, oui. Tu sais des actions que tu convertis un petit peu plus tard et à ce moment-là, ça me suffit, je me dis OK, ça fait de moi vraiment une associée dans la boîte, je le considère comme ça. Et on était quatre à l'époque, il y avait un stagiaire et les deux fondateurs. On est passé très vite à 60. Enfin, tu vois, le côté start-up, oui. Un peu caricatural aussi, mais franchement, trop chouette, que des gens sympas, bonne expérience et tout. Et c'est juste que quand tu grandis très vite, bah, tu vois, moi j'avais 25 ans, j'ai managé une équipe de 20 personnes à 26, 27, wow. Et je pouvais être que pas bonne. Enfin, tu vois, il y a un moment, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. Après, toujours dans un truc bienveillant et bonne ambiance. Mais c'est vrai quand même que j'ai appris là-bas et j'ai dû forcément casser quelques pots là-bas. Et c'est comme ça que j'ai appris et que je me suis formée vraiment sur le tas, quoi. Pour le coup, les cours de management n'ont pas servi, là. Mais c'était super.
C'est vraiment le pire endroit où apprendre le management, je crois, à l'école. Hein. C'est pas du tout...
Ouais, c'est vrai, mais je suis ravie de cette expérience-là qui m'a permis de faire mes armes en tant qu'entrepreneur. Et en plus, accessoirement, on notait des entrepreneurs. Donc, tu vois, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui, ensuite, m'ont servi, m'ont beaucoup aidé aussi. Donc, j'ai vraiment... Il y a eu cette cohérence, en fait, dans mon parcours grâce à cette expérience. Je ne sais pas si je n'avais pas eu ça, tu vois, qu'est-ce que j'aurais fait ? Je ne sais pas. Franchement, très bonne question. J'ai aucune idée, je ne me suis jamais posée d'ailleurs, mais je trouve que c'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Ouais.
Ok. Tu restes 4 ans, c'est ça là-bas ?
C'est ça, un petit peu plus.
Un petit peu plus. En tout cas, c'est au bout de 4 ans que tu décides de créer Poppy, c'est ça ? Ou je me trompe ?
Exactement. Okay. Au bout de 4 ans, en fait, au début, je n'avais pas du tout l'intention de quitter ma boîte. Hein. J'aimais ce que je faisais, surtout j'aimais beaucoup les gens avec qui j'étais. Mais je manageais beaucoup, je produisais rien, tu vois, je produisais plus, je réfléchissais beaucoup moins aussi, je trouve. Et je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire un projet en parallèle, j'aurai cette petite vibration, tu vois, qui va revenir. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer Poppy. Voilà. Et il se trouve que dans ma famille, du côté de mon père, on a des pins dans les Landes. Alors, quand j'ai des forêts de pins, c'est marrant, on m'a fait la vanne souvent, on me dit, mais en gros, t'as tes forêts dans les Landes, c'est un truc d'ouf, c'est genre trois pins, enfin, tu vois, c'est tout petit, quoi. Mais
c'est
bon,
trois pins.
On a trois pins.
J'imagine qu'il y a un peu plus que trois pins.
Il y en a un petit peu plus. Mais en tout cas, voilà, c'est un truc de tradition familiale, tu vois, qui se passe. C'est une forêt historiquement qui a été plantée pour assécher les marécages dans les Landes, tu vois. Donc, il y a un usage très pratique de ce truc-là. Et ensuite, on en a fait des palettes, enfin, voilà, c'est du bois de mauvaise qualité. Les arbres sont coupés à peu près une fois par vie, donc je pensais pas en faire un business, mais je me suis dit c'est dommage, qu'est-ce qu'on peut faire avec du bois qui est déjà coupé, puisqu'en fait on est obligé de nettoyer les lignes de pin pour laisser passer les pompiers. Je me suis dit qu'est-ce qu'on fait avec du bois, du papier, quel est le papier qui est utilisé tous les jours et par tout le monde, et le PQ, je trouvais ça vraiment marrant, tu vois.
Mais c'est vraiment parti de là.
Ça, c'est, ouais, c'est un esprit, et puis en soi c'est Je voulais un modèle économique récurrent, parce que comme c'était à côté de mon boulot, je me suis dit, il faut quand même que le truc dépote vite, tu vois. Ouais. Je ne vais pas réinventer la poudre, clairement, monter une boîte de soft, je sais pas comment on fait, tu vois. Et donc, ça me paraissait pas trop difficile. Bon, et je commence à me mettre là-dedans, je me rends compte que le poids n'est pas du tout de bonne qualité, donc je ne peux pas faire ça. Je voulais quand même rester sur une promesse de ne pas couper un arbre pour un usage unique, parce que tu vois, quand tu t'essuies les fesses, ça dure, enfin ça dépend des gens, mais 30 secondes, quoi. Et donc,
ce qui est 95%, si je me trompe pas, de l'état du marché, quoi. C'est-à-dire,
ouais,
que...
carrément, bah, les gens se rendent pas compte, je pense, mais le papier, c'est du bois. Et donc, quand tu l'utilises pour le jeter pour un usage comme ça de d'essuyage, de nettoyage, bah, c'est dommage de couper un arbre juste pour ça, tu vois. Donc, c'est parti de ce constat-là. Et donc, ensuite, on a utilisé du papier recyclé, qui était la seule alternative française pour pas couper un arbre. Voilà.
Et c'est pas n'importe quel papier recyclé, c'est ça, vous allez chercher. Dans les poubelles des boîtes.
Alors c'est ça. Alors c'est pas nous Poppy, on n'est pas du tout un recycleur, mais par contre il y a des recycleurs qui vont chercher les papiers des corbeilles de bureau des entreprises, qui les amènent dans des usines de recyclage. Il y en a une grosse en France qui s'appelle Greenfield, et ensuite c'est ce papier qu'on achète, ces grosses bobines de papier recyclé qu'on achète pour faire les produits qui eux-mêmes sont faits dans des usines partenaires, 4 en France en l'occurrence.
Et votre promesse, c'est vraiment tout est fabriqué en France, quoi.
Alors, historiquement, oui. C'est-à-dire, tous nos papiers sont fabriqués en France et labellisés Origine France garantie. Donc, on a très proche du label aussi. Enfin, ça, c'est très important pour moi, là, à titre perso. En revanche, au fur et à mesure, pour moi, le Made in France, c'est un truc écologique aussi. C'est-à-dire, tu vois, tu fais pas transporter des produits. Bah, c'est ça qui, malheureusement, émet du CO2. Donc, le Made in France, c'est pas que parce qu'on est chauvin. Oui. Voilà. C'est parce que c'est mieux écologiquement. Et puis, surtout, t'es sûr que les gens qui bossent pour toi, même indirectement, travaillent bien. Même si on n'est pas d'accord sur tout, tu vois, les retraites, plein d'autres trucs liés au travail en France, on sait quand même qu'il n'y a pas des gens exploités, tu vois. Si tu fais fabriquer en Turquie ou en Chine, c'est un autre sujet. Et moi, je ne veux pas justement avoir sur la conscience le fait de faire bosser des gens mal, quoi. Donc le Made in France, c'était ça. Sauf qu'après, il y a plein d'autres produits qu'on a eu envie de sortir et les lignes de production n'existaient pas en France. On a fait là récemment des sacs à crottes, par exemple, pour les couches de bébé, les chiens, les chats. Ben, la ligne de prod pour avoir des sacs 100% compostables et biodégradables n'existe pas en France. Du coup, on les a fait en Belgique. Je vais me dire, la Belgique, c'est pas la France, ça se discute, mais c'est surtout que les Belges qui travaillent pour nous dans cette usine sont des gens traités comme les Français qui travailleraient ici. C'est ça pour moi le Made in France, tu vois.
Ok, c'est de garder une forme d'éthique en fait,
c'est
tout
ça.
au long de la chaîne de production.
Ouais. Exactement.
Ok. Ouais. Et tu t'es pas dit, comme la ligne n'existe pas en France, bah tant pis, on le lance pas, quoi. Tu t'es dit, ok, où aller chercher dans le coin, là, c'est ça ?
Alors, c'est une bonne question. Je me le suis déjà dit pour d'autres produits qu'on n'a pas fait, notamment les lingettes, parce que les lingettes, c'est une cata écologique, c'est blanchi, donc c'est pas bon pour la santé, enfin, vraiment, pire truc. Et on a failli le faire. Franchement, on était à deux doigts avec Pierre, qui est mon directeur des opérations, de cliquer sur le bouton, de se dire, mais allez, c'est trop tentant, on nous l'a tellement demandé, et en plus, c'est un des marchés en plus forte croissance dans l'hygiène. Et au dernier moment, on s'est dit, mais attends, mais là, on est en train de foutre du chlore dans des produits. Enfin, ça va pas du tout. Et on s'est arrêté juste à temps parce que, justement, éthiquement, on a eu honte d'y avoir même pensé, tu vois. Ça, c'était no-go.
Oui.
Par contre, quand on a cherché des lignes de prod qui faisaient ces sacs-là, la Belgique est arrivée très vite parce qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait, des gens qui font des sacs à crottes dans ce genre-là. Et donc, là, on s'est pas posé la question parce qu'on était sur une fabrication locale. On est plus proche de l'usine que quand on est à Marseille, tu vois. Il y avait une éthique sociale puisqu'on savait comment on est allé à l'usine. On va toujours à l'usine quand on fabrique un produit, donc on les a vus. Enfin voilà, il n'y avait pas de sujet là-dessus. Et puis on était vraiment sur des produits écologiques puisque c'est les seuls à être compostables et biodégradables, ce qui est pas pareil. Donc tu vois, ça cochait les cases. En vrai, ça cochait les cases. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire maintenant dans les lancements produits. On coche nos cases. S'il en manque une, on fait pas. Si elles y sont, on se pose pas mille questions non plus. Tu vois.
C'est dur de garder. L'idée de tête, enfin en tout cas l'idée de base que vous aviez, que tu avais au départ, qui était « Ok, bah, je veux que ça coche toutes les cases. » Et parfois même quitte à mettre du business en péril, j'imagine que c'est ce que vous avez fait quand vous n'avez pas fait les lingettes, quoi.
Carrément, c'est hyper dur, surtout quand tu es en croissance. C'est-à-dire que nous, on fait x2 de chiffre d'affaires chaque année. En revanche, aujourd'hui, comme on investit énormément, bah, on n'est pas rentable, tu vois. Et donc, c'est très tentant d'aller vers de la rentabilité en allant acheter des produits merdiques en Chine. Il y en a beaucoup qui le font, notamment dans le bambou. Le bambou, tu vois, on a l'impression que c'est un truc super cool, écolo, machin. Ouais, mais le bambou, ça vient forcément d'Asie. Donc, l'impact carbone, il est très mauvais. Et ça consomme quand même, tu vois, de l'eau, enfin, plein de choses. Et, Et c'est tentant, mais il faut y résister. J'en suis convaincue, en tant que chef d'entreprise, il y a plein de choses auxquelles on doit constamment résister, tu vois. Et je pense que si des chefs d'entreprise résistaient mieux, on n'en serait pas là aujourd'hui, tu vois.
Oui.
Donc voilà, ne pas céder à la tentation, c'est une...
Mais en fait, pour moi, il y a une différence entre... Ok, t'as créé un business un peu sans foi ni loi, et en fait, peu importe, tu fais ton truc et tu traces ta route, que de se dire au départ, bon, bah, j'ai envie d'avoir une forme d'éthique et d'avoir une conscience par rapport à ce que ma boîte crée, et de réussir à tenir dans le temps tout en faisant grandir la boîte, parce que c'est un vrai sujet aussi, quoi.
Ouais, carrément. Ça fait... Nous, on n'a que 3 ans et demi, donc tu vois, on a encore le temps de... faire des compromis, j'espère pas des gros compromis, mais de fait les questions se reposeront, mais au-delà des valeurs, tu vois, des cases à cocher, écologie, sociale et toute la partie santé, il y a aussi les dilemmes de RH que tu peux avoir, tu vois, et ça, moi, j'assume, et même je suis très transparente vis-à-vis de mes salariés là aujourd'hui, c'est on est tous très proches, on partage vraiment ces valeurs là par contre, si la performance est pas là, bah, malheureusement, tout le monde sait que aujourd'hui, on peut pas rester chez Poppy si on n'est pas performant. Enfin, si on respecte pas les objectifs qu'on a validés ensemble. Enfin, tu vois, les gens sont pas pris au dépourvu. Mais je pense que c'est important aussi d'être transparent en tant que patron, de dire voilà l'objectif. Et en fait, on fait tout pour que tu y arrives et qu'on y arrive ensemble. Mais si tu y arrives pas, c'est aussi de la transparence et de la bienveillance de dire bah on arrête, tu vois. Et ça, je trouve ça très dur en tant que chef d'entreprise, parce que parfois t'adores les gens, mais c'est pas le même sujet, tu vois. Et ça, c'est très, très dur. Et je pense que je leur dis toujours à l'équipe, il faut être schizophrène, en fait, quand tu es chef d'entreprise. Et je pense d'ailleurs que les chefs d'entreprise sont des sociopathes, sincèrement. Parce que,
à ce point, tu crois ?
Franchement, je pense un peu.
Tu te vois comme sociopathe ?
Ben, je me dis qu'il y a un petit... Je te jure qu'il y a un... Je pense qu'il y a un petit côté comme ça. Parce que vouloir être dans la bienveillance, sincèrement, parce que je pense que la plupart des gens veulent être dans la bienveillance, et quand même... garder tes contraintes de chiffre d'affaires et de rentabilité, si tu switches de l'un à l'autre, tu vois vite qu'il y a des incohérences, tu peux pas être parfait sur toute la ligne, quoi. Et je trouve que c'est très dur. C'est ça le plus dur et qui prend le plus d'énergie dans une boîte, d'ailleurs, je trouve.
C'est vraiment les relations. Humain.
Bien sûr, ouais.
Clairement.
Enfin, comme dans une famille, comme dans... voilà, c'est le même principe. Hein.
Alors, c'est pas pareil dans une famille, hein. Il n'y a pas de contrat de travail.
Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il y a des contrats quand même parfois, tu vois.
Ouais, il n'y a pas le droit du travail non plus, quoi, en tant que... Ouais. Et je trouve que... Enfin, je trouve ça assez... Je trouve ça assez génial de l'exprimer comme ça, mais pour moi, justement, tant que tu arrives à venir expliquer ton choix et les raisons de ton choix, en fait, pour moi... Certes, la personne en face peut ne pas être d'accord.
Ben, c'est l'éternelle question. Nous, tu vois, tous les gens avec qui on a arrêté les collaborations chez Poppy, ça s'est toujours super bien passé. Et il y en a même un qu'on a failli re-recruter sur un autre poste parce qu'on savait que le poste en lui-même n'était pas bon, mais que la personne était géniale, ouais. Tu vois. Et donc ça, il faut y arriver aussi à se dire, attends, la personne, elle est incroyable, mais je me suis trompée de poste. Enfin, en fait, on n'a pas besoin de ce poste ou le poste ne lui correspond pas parfaitement, tu vois. Et je pense d'ailleurs que c'est l'éthique qui fait que tu t'entends bien et que t'as pas de conflits sociaux. Mais ça demande de l'énergie. Et ça, je trouve ça le plus dur dans l'entrepreneuriat, en fait.
Vous êtes une petite boîte encore pour l'instant. Vous êtes combien ?
On est 13 personnes.
Ah ouais, ça commence à devenir...
Mais c'est vrai qu'on est, quand même petit, mais je me dis toujours, tiens, quand tu en auras...
Pour moi, au-delà de 10, ça commence... Pour moi, au-delà de 10, c'est déjà le beans, quoi. C'est-à-dire que...
En tout cas, il faut à la fois être partout... Mais laisser de l'autonomie à chacun pour que finalement le salarié s'y retrouve aussi. Parce que quand tu rejoins une jeune start-up, tu prends un risque aussi. Donc il faut que tu t'épanouisses et être plus libre que dans une grosse boîte. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Donc c'est un juste équilibre à trouver. Mais avec certains, ça se trouve en 2 secondes. Avec d'autres, ça prend beaucoup de temps. Il y a des hauts, il y a des bas. Enfin voilà, c'est très complexe, je trouve. Et ça, tu l'apprends au fur et à mesure, quoi.
C'est pas un truc que tu apprends à l'école, effectivement.
Non, franchement, non.
Parlons de ta vie de maman, si tu veux bien.
Ben avec plaisir.
T'as fait 2 enfants en 2 ans et demi, là, tu disais. Et ta boîte, elle a 3 ans.
C'est ça. Ouais, je suis tombée enceinte pendant mon ulule, tu vois. Et un bon timing. Et après, tout s'est enchaîné. C'est souvent, on dit, ah, mais c'est pas le bon moment. Moi, je pense que, en fait, c'est jamais le bon moment. Parce qu'après, il y a toujours un autre truc... Donc finalement, je pense que c'était le bon moment et personne n'est obligé à faire le deuxième non plus. Donc,
alors
tu vois, c'était...
j'espère pour toi.
Ouais, ouais. Donc je me dis
sinon
que c'était...
tu peux appeler un petit numéro, n'hésite pas à me le dire.
Ouais.
On peut te sortir de là, Natacha Campouche.
Non, non, franchement, c'est un, pour moi, c'est un bonheur d'avoir mes enfants. Tu vois, il y a beaucoup en ce moment de un thème qui revient beaucoup sur les mères ou les pères, tu vois, qui est la difficulté, presque l'horreur d'être mère, tu vois. Moi, je le comprends, mais je trouve que c'est important aussi que des mamans disent que ça peut être génial aussi, tu vois. Donc, toujours cet équilibre, en fait, moi, j'ai l'impression d'être un peu une... Je cherche l'équilibre dans les choses, tu vois. Et il ne faut pas se dire que ça va être trop dur, comme il ne faut pas se dire que ça va être trop facile. Il faut se dire quand même que ça va être quelque chose de merveilleux, parce que ça apporte forcément autre chose, ça peut te rendre meilleur, mais effectivement, si on aime beaucoup dormir, c'est compliqué, quoi, tu vois. Mais
alors,
c'est
oui.
toujours pareil, connaître ses forces et ses faiblesses, et ensuite, essayer de capitaliser sur... sur ce que tu fais bien. Et puis ce que tu fais pas bien, de toute façon, c'est pas un enfant qui va t'améliorer ou qui va te faire empirer, je pense, tu vois. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de négativité, justement, dans les discours que je peux entendre sur le fait d'être mère ou d'être père, tu vois. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des gens qui le vivent très bien et on les entend un peu moins, je trouve.
Mais clairement, et c'est l'occasion. Mais en fait, t'es tombée enceinte en même temps que t'as lancé ton Ulule.
Ouais.
Donc il y avait vraiment un vrai truc de... Allez, on lance les projets et on y va. Et en fait, peu importe. Une forme peut-être même, enfin, je sais pas, d'insouciance ou de...
Bah ouais, mais ça, je pense que beaucoup de... Enfin, tu vois, ouais, c'est vrai que moi, j'ai tendance à décider des choses hyper rapidement. Je peux changer d'avis aussi, j'avoue, oui. assez rapidement.
Pour les enfants, vaut mieux pas trop en cours de route. Hein,
après, effectivement. Non, ça, c'est... Alors, c'est vrai que c'est la seule chose pour laquelle j'ai vraiment pas eu de questionnement, ouais. tu vois. Mais par exemple, on peut déménager. Enfin, tu vois, avec mon mec, on peut déménager. Enfin, on a déménagé à Bordeaux comme ça en une semaine. Ça nous a pas plu, on est revenu. Enfin, tu vois, parce que je me dis, faut tester des trucs en fait. Et c'est comme ça que tu te connais mieux, que tu sais ce que tu dois faire. Mais c'est vrai que je me suis pas trop posé la question. Non, j'ai bien fait parce que sinon je l'aurais peut-être pas fait. De faire. Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est. Puis après, il y aurait eu le confinement. Après, il y aurait eu autre chose. Enfin, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas le bon moment. Donc je me dis, tant qu'à faire,
oui.
prenons les choses comme elles viennent. Quoi. Voilà.
Et en fait, c'est pareil, tu disais tout à l'heure que t'as pas pris le temps de prendre un congé mat pour le petit premier déjà ou...
Pour le premier, en fait, j'étais seule dans la boîte avec une salariée, qui est toujours là d'ailleurs. En plus, malheureusement, on a été hospitalisés assez longtemps, donc j'ai eu ce temps, entre guillemets, mais ça a été pas du temps, tu vois, très joyeux, quoi.
Ouais.
Donc c'est après que c'est devenu joyeux. Et du coup, j'ai beaucoup relativisé aussi, en fait, tu vois, je trouve que c'est important de relativiser, de se dire qu'il peut toujours y avoir pire, qu'un enfant qui va bien, bah, en fait, c'est déjà génial, tu vois. Donc, finalement, ça m'a bien servi cette période un peu dure. Et après, j'ai repris parce que, de toute façon, la boîte.
Fallait y aller, quoi.
Il y avait
personne.
Il y avait qu'une personne qui gérait le service client et à l'époque qui à l'époque ne savait faire que ça. Aujourd'hui, Florine, elle sait faire un milliard de trucs différents, mais à l'époque il y avait que ça, tu vois. Donc oui, là il fallait retourner, mais je l'ai pas vécu comme quelque chose de terrible parce que je l'avais beaucoup avec moi. En plus, c'était le confinement et le Covid, donc les gens étaient habitués à la visio, tu vois.
Ouais.
Par contre, pour le deuxième, c'était autre chose parce qu'effectivement le retour du physique et puis boîte de 13 personnes, donc c'était différent. Et
ton petit deuxième à quel âge?
Il a 5 mois.
Ok.
Voilà, il est trop chou. Et il est vraiment très chou. J'ai de la chance aussi. C'est pour ça que je donne aucune leçon à aucune maman, aucun papa, parce que je sais aussi qu'avec le deuxième, j'ai beaucoup de chance. Il pleure très peu. Enfin, tu vois, c'est sûr qu'il y a rien d'agaçant dans ma relation avec lui, quoi. Mais j'ai pris 15 jours et puis après, je suis revenue au bureau avec lui. J'ai de la chance aussi d'avoir des grands-parents qui sont hyper présents, tu vois, ce qui aide énormément. Et tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur... Enfin, j'avais fait un post LinkedIn sur les métiers dans lesquels l'État devrait investir, tu vois. Enfin, voilà, et je me dis, bah, c'est vrai que aider des parents qui peuvent pas s'occuper de leurs enfants, qui sont obligés de les mettre devant des écrans, parce qu'en fait, bah, je sais pas, tu rentres du boulot, il est 19h et t'as 3 enfants, t'es mère célibataire, bah, qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Tu peux rien faire. Donc, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à apporter à ces gens-là, de les aider avec... des métiers de la petite enfance, tu vois, du soutien à la personne. Le soutien à la personne, ça doit pas être que pour les gens âgés, quoi. Ça doit être pour tous les gens qui en ont vraiment besoin. Et voilà, ça sera peut-être l'objet d'une nouvelle boîte dans quelques années.
Une prochaine boîte.
Je sais pas, mais en tout cas, je suis persuadée qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le soutien à la personne et pas que la personne dépendante ou âgée, tu vois, mais la personne dans la difficulté,
oui,
quoi.
D'une manière générale.
Voilà.
Ok. Et je t'entendais dire dans une interview que c'était un vrai sujet pour toi, l'aspect entrepreneuriat et maman. Comment tu fais, toi, aujourd'hui, de réussir à jongler entre ta vie de boss et tes deux mômes? Comment ça s'est joué aussi au sein de votre couple? Tu disais que tu avais les grands-parents aussi. J'imagine que ça file un coup de main, quoi.
Ouais, carrément.
Surtout s'ils viennent vivre en coloc.
Ouais, non, finalement, ça s'est pas fait. Donc, ceux de Bordeaux, on les voit moins souvent, mais ils sont quand même, ils ont été très présents à un moment pour le premier.
Ouais.
Alors, moi, mon mec est entrepreneur aussi, donc on se comprend, c'est déjà important, oui. Tu vois, parce que sinon, je trouve que c'est difficile de parler un langage différent et peut-être de reprocher à l'autre son sacrifice aussi, tu vois, finalement, parce que je pense que le terme de sacrifice parfois convient.
Oui.
Et donc, voilà. Quand
la croix
de l'entrepreneuriat, c'est ça. Et donc, quand tu te comprends, ça aide déjà un petit peu. Ça résout pas les problèmes, mais en tout cas, ça aide un petit peu à communiquer, quoi. Ce qui me perturbe encore beaucoup, j'ai lu un article d'ailleurs de la fondatrice de... C'était quoi déjà ? C'était Yuka, je crois, qui racontait qu'elle, elle était hyper gênée vis-à-vis de ses salariés. De partir plus tôt, par exemple, tu vois. Et moi, ça me traumatisait au début de me dire, mais attends, est-ce que je vais montrer l'exemple ? Du coup, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Moi, qui étais une tarée des horaires, des trucs et tout, je me suis dit, mais c'est débile, en fait. Faut pas que je sois comme ça. Et donc...
Une tarée des horaires, dans quel sens
tu... J'aimais le fait que, dans une entreprise, t'arrives à 9h et tu partes à telle heure, tu vois.
Okay.
Et après, je me suis dit, mais c'est absurde, parce que... T'as des gens qui vont avoir des vies différentes, une heure et demie de trajet, bien sûr, quelqu'un qui a une heure et demie de trajet, il n'y a aucune raison de lui imposer la même chose que quelqu'un qui habite à 10 minutes. En tout cas, je trouve ça absurde et pas du tout dans l'efficacité, tu vois. Et donc, j'ai complètement changé la façon de fonctionner de Poppy grâce à cette maternité, finalement. Et aujourd'hui, tu vois, mes salariés, ils n'ont pas d'horaire. Donc, ils arrivent quand ils veulent, ils partent quand ils veulent. Il y en a certains, du coup, qui ont des horaires un peu bizarres, qui travaillent à des moments que je ne maîtrise pas. Mais j'assume ça aussi, du coup, tu vois. J'en ai une qui vit en Italie, j'en ai une qui vit à Nice. Enfin voilà, j'ai complètement changé ma façon de voir l'entreprise parce que j'ai eu besoin de m'adapter à mon calendrier aussi. Et c'est tout con, tu vois, mais la crèche, elle ferme à 18h45. Bah oui, bah, faut bien que j'aille chercher mes enfants, quoi. Et donc ça m'a aussi permis d'être un peu plus flexible vis-à-vis de la vie de chacun. Alors qu'avant, dans ma boîte précédente, j'étais persuadée que c'était le salarié qui devait s'adapter à l'entreprise. Maintenant, j'ai un peu changé d'avis. Je pense que c'est l'entreprise qui doit s'adapter et le salarié qui, du coup, n'en sera que plus efficace et bienveillant vis-à-vis de sa boîte, tu vois. Mais franchement, j'aurais pas dit la même chose il y a 3 ans, quoi.
Donc, et tout est parti de toi.
Mais je pense que... Non, mais sincèrement, je pense que malheureusement, tout entrepreneur a un peu d'égocentrisme, tu vois, ou quelque chose... ouais, un égo un peu fort quand même, je pense. Et ça, il faut y faire attention parce qu'effectivement... faut pas tomber dans le trop ni le personal branding. Moi, je le faisais beaucoup au début. Maintenant, en communication, franchement, pour Poppy, en tout cas, on essaie de le faire beaucoup moins. Déjà, parce que tu vois, si je passe sous un camion, bah, ce serait con que la boîte meure.
Oui.
L'idée, c'est quand même, on en a parlé, mais c'est important que la boîte survive à l'entrepreneur, quoi. Donc, déjà pour ça, et puis ensuite parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de communication tournée autour des personnes. Et donc,
tu t'es un peu mis en retrait de cette là, c'était une vraie volonté.
Ouais, carrément. Okay. Déjà parce que tu vois, j'admire les gens qui ont tout le temps des trucs à raconter, mais moi, quand je vois des gens qui postent tous les jours sur leur vie, bah, je me dis, mais c'est génial, comment ils font? Enfin, moi, j'ai rien à raconter, tu vois. Je me dis, putain, faudrait que je me creuse la cervelle pour aller raconter un truc à la. Moi, j'ai peut-être pas une vie passionnante, mais sincèrement, j'ai pas un truc à dire par jour, tu vois. Donc, c'est ça aussi qui m'a laissé penser que mon contenu n'était pas un contenu suffisamment intéressant. Je ne sais pas faire, en fait, tu vois, ce contenu-là. Je ne le maîtrise pas. Donc, plutôt que de faire un truc moins bien, bah, je me suis dit, je laisse faire des gens qui savent faire sans doute mieux que moi de la pure com, un peu plus à l'ancienne, tu vois, du coup. Mais voilà.
Ok, parce
on a
que
encore un truc à trouver, quand même.
Autour du Ulule, c'était toi qui incarnais le truc en tant que jeune fondatrice, etc. Quoi, tu vois, jeune entrepreneuse.
Ouais, ouais, complètement. Et je pense que même pour un Ulule, c'est obligatoire, tu vois, que les gens se projettent et se disent aussi, attends, j'achète un truc qui n'existe même pas encore, faut quand même qu'il y ait une vraie personne qui me garantisse qu'elle ne va pas partir avec, tu vois. Rien que ça, en fait. Donc, il y a un côté confiance. Mais voilà, quand la boîte grandit, je pense qu'il faut un peu quand même se mettre en retrait de ça.
Ok.
Voilà.
T'as eu cette opportunité d'être dans Qui veut être mon associé ?
Ouais, carrément, c'était
saison 2, donc c'était quand ? C'était
l'année dernière.
L'année dernière, c'est ça ?
Enfin, tournage il y a 2 ans, parce qu'ils ont mis 1 an à sortir le truc.
Oui.
Mais diffusion l'année dernière, ouais.
Comment t'en es venu à avoir l'opportunité de rentrer dans cette émission ? J'imagine que pour une jeune marque comme toi, c'est vraiment du pain béni, quoi.
Ah, carrément, franchement. Ouais. Et en plus, moi, j'ai trouvé ça super, le tournage, hyper... rigolo. En plus, j'avais deux salariés à l'époque qui sont venus. Enfin, on s'est trop barrés. Franchement, c'était vraiment cool. Et puis moi, j'aime bien la télé. Enfin, voilà, j'aime bien parler en général. Non, mais c'est vrai, franchement, ouais. C'est aussi ce que j'aime dans mon métier d'entrepreneur, c'est raconter une histoire au sens positif du terme, tu vois. Et je me la raconte à moi aussi, hein. C'est ce qui fait la sincérité du truc, tu vois. C'est que je m'auto-storytell, je sais pas comment on dit, mais c'est de me convaincre moi-même de moi-même, quoi, je sais pas. Mais c'est hyper important. Et,
ça
et
peut
à
être
la
un
télé,
piège d'ailleurs, hein, où tu finis par toi-même tellement raconter l'histoire que tu finis par ne plus l'incarner vraiment, quoi.
Bah, peut-être, ouais. Non, et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime bien aussi quand les autres me disent de l'équipe, ça c'est pas bien, attention, là on. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi, tu vois. C'est vachement bien d'avoir des gens autour de soi pour ça. Et donc, qui veut être mon associé c'était via... j'étais dans des incubateurs, accélérateurs, MakeSense, showroom privé. Donc, incubateur à impact et aussi plus quelque chose dans le e-commerce, puisqu'on faisait que du e-commerce au début. Et puis, via le réseau Entreprendre aussi, qui est un réseau d'entrepreneurs très actif. En fait, via les trois, on a une proposition de la boîte de prod, ouais. Exactement. Je savais même pas que ça existait, mais enfin, boîte de prod qui te dit, il y a ça qui existe. Mmh. Et après, un peu des castings, tu vois. Donc, envoyer une vidéo, faire un vrai casting. Enfin, j'imagine comme on fait pour n'importe quelle émission, mais c'est vrai que c'était complètement nouveau pour moi. Et j'ai trouvé ça assez bien fait d'un point de vue financier investissement. C'est-à-dire qu'on avait un business plan, tu vois, qui était quand même bien travaillé. Enfin, c'était pas juste va raconter un truc rigolo, tu vois. C'était, j'ai trouvé ça financièrement intéressant, quoi.
C'est-à-dire qu'ils te demandaient des docs sur lesquels tu n'avais pas encore forcément bossé, c'est ça ?
Alors, j'avais bossé dessus, mais il y a eu quand même... je pense qu'ils veulent vérifier, en fait, que la boîte ne va pas mourir au moment de la diffusion.
Okay.
Donc, être sûr que tu es une boîte saine, que tu vas avoir une viabilité qui fait que si quelqu'un veut investir, tu ne plantes pas l'investissement, ce genre de choses, tu vois. Enfin, j'imagine, c'est mon interprétation du truc, mais j'ai trouvé ça assez bien fait, en tout cas, ouais.
Et les retombées pour ta boîte, qu'est-ce que ça a donné alors ?
D'un point de vue commercial, alors nous on est un peu, on a une mini douille, c'est qu'on est passé à 23h30. Donc un mini douille. On aurait pu ne pas passer, donc déjà c'est bien, mais
il y a des candidats qui ne passent pas du tout.
De ma promo, il y en a une dizaine qui ont été coupés.
Ah,
ouais.
Ouais.
Ouais. Franchement, c'est trop dur. Hein.
C'est
franchement,
chaud.
Tu te projettes et tout, et bam, bon, c'est la vie. Hein. Mais c'est un peu dur. Moi, j'avais peur de ça. Hein. D'ailleurs, jusqu'au dernier jour, je me suis dit, purée, si la prod nous coupe, on aura fait tout ça pour rien. Parce que ça se prépare en plus la diffusion,
j'imagine.
Tu vois. Donc, bon.
Ouais.
Et 23h30, malgré ça, donc on a quand même trois fois moins d'audience, tu vois. Il y avait 800 000, je crois, d'audience, alors que c'est plus de 2 millions. Ouais, c'est ça, hein, c'est quand même trois fois moins. Et malgré ça, on a fait trois mois d'acquisition en 10 minutes. Et puis, les gens hyper sympas, tu vois. C'est vraiment une émission dans laquelle, je pense, il n'y a pas de... je sais pas, de mauvaises retombées. En tout cas, j'ai l'impression. Il y a eu quelques entrepreneurs qui ont eu des retours négatifs où le montage leur plaisait pas, ne les mettait pas en valeur selon eux, tu vois. Mais franchement, moi, j'ai trouvé qu'au global, ça montrait bien ce que c'était que le business entrepreneurial. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette émission. C'est parce qu'elle
ils
est...
Ils viennent pas te péter les genoux s'ils sont pas d'accord avec toi, d'une manière générale. Ils peuvent être durs, mais ça reste toujours juste, quoi.
Ouais, j'ai l'impression. Il y en a certains, je crois, qui étaient très durs cette année. J'ai pas tout regardé, je t'avoue, mais c'est ce qu'on m'a dit. Mais moi, ma promo, c'était plutôt bienveillant. Ouais, ouais.
Ok. C'est quoi les projets pour Poppy ?
Écoute, plein de... Je pense qu'il y a déjà consolidé ce qu'on a fait. Parce que tu vois, nous, on vend des produits qui sont hyper basiques, qui à la base sont pas sexy, mais qui sont achetés par 65 millions de Français. Donc en fait, tu te dis, si ce produit-là, aujourd'hui, on fait entre guillemets... que 1,5 million de chiffre d'affaires, ça veut dire que il nous reste un boulevard, quoi. Donc il faut qu'on consolide l'existant et après il faut aussi qu'on sorte un peu de notre zone de confort pour lancer des nouveautés, pour convaincre d'autres gens. C'est pour ça qu'on a sorti des produits pour les chiens et les chats, tu vois, c'est aller chercher autre chose. Et puis vraiment l'enjeu d'avoir une équipe forte et stable, tu vois, qui soit on va recruter des gens plus seniors aussi parce que la moyenne d'âge, moi je suis la plus vieille, j'ai 32 ans, tu vois, donc je suis pas non plus une mamie, j'ai des cheveux longs, mais bon voilà. 32 ans, sinon la moyenne d'âge, je crois qu'on a des gens qui ont 19 ans jusqu'à 28, et encore le 28, j'ai un doute, je crois que c'est 27. Donc tu vois, c'est vraiment une boîte de bébés, quoi. Et donc il faut qu'on soit moins bébé, et c'est pour ça qu'on recrute des profils plus âgés. Et c'est des risques aussi, parce que c'est des profils qui coûtent plus cher, avec il faut accepter de manager des gens qui sont bien meilleurs que soi.
Ouais.
Donc ça c'est un peu c'est difficile mais c'est enfin moi je l'ai complètement intégré et je pense que c'est le moment aussi pour l'équipe et les salariés associés de se confronter à ça aussi. Et c'est vrai que c'est difficile au début parce que on est le manager de quelqu'un de meilleur, quoi. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, hein, parce que sinon, en tant que chef d'entreprise, sinon on n'apprendrait plus du tout.
Bah, sinon, oui, tu recrutes que des gens moins bons que toi et tu peux être sûr.
Et
que...
c'est dommage parce que soi-même, on n'est pas toujours très très bon. Enfin, moi, en tout cas, j'ai plein de lacunes dans mon marché sur plein de sujets, quoi.
Mm-hmm. Ça fait deux fois que tu dis que t'as des cheveux blancs.
Je pensais que je te l'avais dit. Tout ça. Mais oui, c'est un vrai gros sujet, ça, parce que moi, ça me dérange pas du tout.
Ok.
Mais
tu le dis quand même.
Mais oui, parce que figure-toi que j'ai une de mes meilleures potes qui m'a dit que c'était horrible.
Ah, ok.
Et ouais, donc tu vois. Non, mais ça va, je le vis bien. Enfin, moi, je le vis bien. Mais quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, ça se trouve, d'autres gens pensent ça. Et donc, voilà, je me suis questionnée sur qu'est-ce que j'allais faire de mes cheveux. Je te laisse juge me donner des conseils.
Alors, moi. Je vais pas donner de conseils capillaires. Il y a un truc très intéressant qui se joue là en ce moment, notamment chez les nanas de 50 ans, sur les réseaux sociaux, c'est de montrer leurs cheveux blancs ou leurs cheveux gris et de les mettre en avant. Et de,
ah, c'est vrai?
Ouais, il y a un hashtag et tout. Il y a une vraie tendance.
Tu vois, j'ai pas de réseaux sociaux en perso, donc je ne vois pas ces choses-là.
Voilà. Il y a une vraie tendance aujourd'hui de, moi, c'est mes cheveux au naturel et voilà. Et de la même façon qu'il y a eu tout un truc de déconstruction autour, je sais pas, des personnes grosses. Enfin bref, pas loin d'un truc. Il y a un peu ce truc-là aussi.
Et ouais, carrément.
C'est après, étonnant, ta pote qui te balance.
Non, mais elle en a elle-même beaucoup.
Ah.
Et donc, ça la perturbe beaucoup. Enfin, voilà. Non, mais blague à part sur la différence entre le poids et les cheveux. En fait, je pense que le cheveu blanc, les gens n'aiment pas le voir parce que ça te rappelle que tu vieillis. C'est très différent que le fait d'être gros, gros, ce que tu veux. Tu vois, c'est en fait, ça te. Et soi-même, en fait. C'est pour ça que souvent, on n'aime pas les voir. C'est parce qu'on se dit, ah ouais, putain, le temps passe, quoi, tu vois. Et en fait, c'est écrit droit sur ta gueule, un peu comme les rides. C'est ça qui est. C'est pas qu'on trouve ça moche. C'est que on se dit, ouais, effectivement, un, ça passe vite, et deux, j'ai des. Voilà, j'ai. Qu'est-ce qui me reste, en fait, tu vois. Je pense que c'est ça aussi dans le visuel qui embête les gens.
T'as du mal avec le temps qui passe?
Non.
Ok.
Non, mais
tout à l'heure, tu disais que tu avais encore des soucis avec la mort, alors je me disais, bon, peut-être que...
Alors, ça va mieux quand même. À un moment, quand j'étais petite, justement, ça me traumatisait.
Ouais.
Mais non, je l'ai plutôt accepté. Mais maintenant que j'ai des enfants, je ne suis pas attristée par ma mort pour moi, mais je suis attristée par ma mort pour eux. C'est ce que je me dis. C'est en fait, perdre une maman, c'est terrible, tu vois. Mais je me positionne différemment, en fait.
Tu n'as pas ce truc d'avoir peur de leur propre mort à tes enfants?
Si. En plus, moi, je suis... j'ai le SOS médecin très facile, tu vois. Donc, carrément, je suis assez inquiète. si, complètement.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé causer?
Écoute, il y a plein de sujets, moi, qui me passionnent. Je suis très, très concernée par le bien commun, ce qu'on appelle le bien commun au sens très large, tu vois. Et en fait, je suis convaincu que le chef d'entreprise, puisque là le thème c'est aussi l'entrepreneuriat, donc que le chef d'entreprise il a un rôle social à jouer, tu vois, et par rapport à l'État notamment, par rapport à plein d'organisations un peu sclérosées selon moi, tu vois, et donc le chef d'entreprise il a un rôle social qui me paraît très fort pour œuvrer pour le bien commun. Et je te donne un exemple qui me paraît très révélateur. Nous chez Poppy, enfin, on a mis en place un système un peu de 4/5 et demi. Donc les salariés ont la possibilité le vendredi après-midi d'avoir leur vendredi après-midi pour se consacrer à une asso caritative, tu vois. Mais pas en mode à la carte, c'est-à-dire que t'es payé pareil, t'as les mêmes objectifs, mais par contre, tu vois, par exemple, t'es obligé de prendre une photo de ton après-midi. Parce que l'idée, c'est pas d'aller partir le vendredi, c'est vraiment de se dire, en tant que salarié, j'ai pas le temps de m'occuper des autres parce que j'ai mon taf, ensuite j'ai peut-être ma vie de famille et tout. Mais sauf qu'en fait, du coup, on est tous de plus en plus renfermés. En plus, avec les réseaux sociaux, je pense que c'est encore pire. Et donc, cette ouverture aux autres, je pense qu'elle doit venir aussi de l'entreprise et du chef d'entreprise. Et voilà, j'espère que ça va être en train de se faire. Mais,
Qu'est-ce qui t'a donné envie de mettre ça en place dans ta boîte?
Plusieurs choses. Déjà, le fait que je trouve que j'ai parfois pas assez de temps pour ce type d'action. Tu vois, entre encore une fois le pro et le perso, c'est pas que de la faute de la boîte, mais de fait, c'est vrai que j'ai peu de temps. Et j'ai un de mes salariés qui est dans une asso, il va visiter les enfants à l'hôpital. Et tu vois, moi-même, j'ai dû aller à l'hôpital pour mon bébé, celui-ci. Je peux pas dire, les deux sont des petites natures, les deux. C'est pour ça aussi que je suis inquiète. Et j'ai été moi-même visitée par une dame de cet asso, tu vois. Et j'ai trouvé que ça m'avait vraiment. Alors que. tu sais, j'avais l'impression de pas avoir besoin, bah en fait ça m'a vachement servi. Et le fait que Pierre soit obligé de faire ça le mercredi soir après le boulot, je me suis dit purée, mais s'il avait des enfants, il pourrait jamais faire ça, tu vois. Et donc d'où le fait de libérer du temps le vendredi après-midi, parce que souvent c'est le moment où on est un peu moins efficace, tu vois, on finit un peu plus tôt et tout. Donc je me dis, quitte à perdre 2 heures, bah allez, ne les perdez pas et faites un truc un peu utile, quoi. Mais finalement, il n'y en a que 2 qui l'ont fait pour l'instant, tu vois, c'est okay. Drôle. Hein. Ça veut dire que il faut quand même passer le cap, tu vois. Je pense que l'altruisme, c'est un truc, c'est le plus dur, quoi. C'est de se sortir des obligations, des devoirs et de faire le petit plus qui fait que tu vas devenir meilleur. Mais franchement, c'est hyper dur. Moi j'arrive. J'ai
et toi,
du mal à me
j'allais dire,
quoi.
Tu fais quoi ?
Alors, je suis assez impliquée. Peut-être pas parler de religion, mais en tout cas, moi, je suis une entrepreneur chrétienne, quoi. Okay. Donc, ça m'anime aussi vachement, tu vois. La théologie, je le vois comme de la philosophie, hein, tu vois. J'ai une approche, on va dire, un peu protestante du truc. Et donc voilà, c'est un peu le tu aimeras ton prochain comme toi-même qui m'anime. Ouais. Et je suis par exemple entrepreneur et dirigeant chrétien, des choses comme ça. Et voilà, et pour essayer de donner l'exemple, j'ai donc demandé à Pierre de m'introduire à son asso, parce que je sais aussi que peut-être que si le chef d'entreprise le fait pas le vendredi après-midi, bah, les gens se disent, ah, si je le fais, ça va peut-être être mal vu, tu vois. Donc voilà.
Faut toujours donner l'exemple, hein.
Bah, exactement. Non, mais carrément, et du coup, je sais que c'est à moi de faire ça, et voilà, je vais m'y mettre.
Pour retrouver Poppy, c'est sur poppy.fr, c'est ça
.co. En plus, il n'y a même pas le M. poppy.co. D'ailleurs, tous les autres noms de domaine étaient pris de toute façon. Ouais. Tu vois, c'est tout con, mais en fait, le CO, il s'est imposé comme ça. Et sinon, on est aussi quand même chez Franprix.
Oui.
Une grosse enseigne un peu cool du groupe Casino, si je peux orienter vachement dans lequel on arrive là.
Okay.
Après, on est chez Leclerc, Carrefour aussi, des classiques de la grande conso. Pour le coup, c'est vraiment, on est une marque familiale du quotidien. Voilà.
Bah, trop bien. Je te souhaite le meilleur et je vous souhaite le meilleur.
Eh ben, merci, toi aussi.
Je mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode, puisque
trop cool.
On peut faire ça désormais, tu sais, sur les podcasts. Merci à toi.
Merci.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.